Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Il fait froid, difficile de parler d'autre chose. Je vais vous dire, moi, je fais rire tout le monde ici à la station. Je suis pas, je suis encore un ado, là. Je m'habille pas, j'écoute pas ma mère, je mets pas ma tuque, je mets pas mes gants. Donc, je suis pas exactement frileux. Mais aujourd'hui, sincèrement, du stationnement à Cube, je pense que j'ai à peu près 200 mètres à marcher. Je pensais que mes joues allaient geler, mes oreilles allaient tomber, mes doigts allaient s'égrener. J'avais les yeux pleins de larmes qui gelaient à mesure. C'est inimaginable pour les gens qui ont pas mis le nez dehors, comment il peut faire froid. C'est pas vraiment drôle, en fait, pour les gens qui seraient mal pris. Si vous avez un accident d'auto, n'importe quoi, vous vous ramassez là, sur le bord du chemin sans secours et sans support. Ça peut avoir des conséquences très graves en assez peu de minutes. C'est le sujet du jour, je vais vous dire. Le fait que les sports d'hiver, je pense qu'on va remettre ça à demain ou à après-demain. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
Vous regardez LCN.
Parlons tout de suite avec Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube, de ce ballon chinois, Mario, qui survole, bon, Montana, là, on dit que ça se déplace vers l'est. On a parlé également de l'Alberta, de la Saskatchewan, est-ce qu'il a passé au-dessus du Canada? Enfin bref, la Chine se dédouane parlant d'un ballon civil, bon, recherche météo. Visiblement, le Pentagone qui n'achète pas cette explication-là. Blinken reporte sa visite, d'ailleurs, devrait parler dans les prochaines minutes. Est-ce que tu es étonné, Mario, d'une histoire comme celle-là?
Ben c'est sûr qu'on est tous étonnés, mais inquiets en même temps. Là, je trouve pas ça drôle. Je veux dire, quand ouais. T'arrives à des niveaux plus inquiétants, là, tu sais, d'arrogance, de conflit entre les États-Unis puis la Chine, c'est là qu'on veut pas que le monde aille. Il y a beaucoup de questions. Mais d'abord, commençons par l'hypothèse ou la réponse des Chinois. T'as-tu ça, toi, Marianne, un globe terrestre chez vous? Parce que tu sais, ouais. Parce que je veux dire, si un ballon se retrouvait aux frontières de la Mongolie ou de la Corée. Tu sais, on dirait, ah ben, il est parti de la frontière de la Chine, puis le vent l'a amené un petit peu à côté, il est sorti en dehors de la cour.
Un peu déporté.
Il est sorti en dehors de la cour, là. Mais là, rendu aux États-Unis, il a traversé l'océan Pacifique, là, c'est une grosse ride, hein?
C'est une trotte.
Ouais.
C'est une trotte.
Fait que c'est plus étonnant un peu, là, tu sais, puis que tout à coup, on le découvre comme ça. Pour nous, du Canada, ça soulève quand même aussi de grosses questions. Est-ce que les autorités canadiennes n'ont pas détecté parce qu'on est mal équipé, radar, etc., pis on l'a carrément pas vu? Ou est-ce que notre armée l'a vu, puis on le savait au Canada qu'il y avait ça qui nous survolait, qui a survolé l'Ouest canadien, mais qu'on l'a pas dit au public, et finalement, nous, la population, on l'apprend à partir du moment où il se rend au-dessus des États-Unis, dans le ciel américain, que là, nous, on apprend qu'il est passé par le Canada. Dans les deux cas, je te dirais que c'est un peu malaisant. Là. Je trouve ça un peu malaisant si on s'en est pas rendu compte au Canada. Ça en dit long sur notre capacité de surveillance de notre espace aérien. Puis c'est un peu inquiétant aussi, c'est quand il arrive aux États-Unis, les États-Unis, eux, sont transparents, le disent, puis là, nous, on apprend qu'il est passé au Canada. Pour le reste, c'est ça, tu sais, où ça mène, qu'est-ce que les Chinois essayent de faire, au Montana, tu sais, veux-tu un État aux États-Unis plate, il se passe pas grand-chose, sauf les rampes de lancement des missiles nucléaires. Bon, quand on dit que c'est
considérable,
dans
les circonstances.
Quand on dit que le ballon était là pour de la météo, je pense pas que la météo du Montana est si particulière que ça, là, si intéressante à analyser que ça. Fait que tu sais, ça soulève beaucoup de questions, et puis ça fait un peu, c'est comme si, ça fait arrogant, là, si vraiment la Chine envoie ça, parce que t'as pas vraiment de chance de pas te faire prendre. Donc c'est comme si t'envoies ça, puis tu dis, garde, ils vont nous pogner, puis tant pis, puis nous, on fait ce qu'on veut, puis on a plus peur d'eux autres. Alors si c'est ça, il y a un côté sans gêne, il y a un côté arrogant, qui a de quoi nous inquiéter.
En même temps, on peut se poser la question où ça va nous mener également sur les relations qui semblaient s'être réchauffées un peu quand même entre le Canada, par exemple, et la Chine. Bon, rappelle-toi, après la COP15 ici à Montréal, qui était co-présidée, tout ça, il y avait comme eu une espèce de réchauffement des relations. Et est-ce que ça peut jouer surtout encore, évidemment, avec les Américains, là?
Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui t'as le droit d'utiliser le mot réchauffement.
C'est trop.
Je viens de marcher le trottoir. Je viens de marcher le trottoir ici. Là, je pense que le mot réchauffement doit être banni du vocabulaire pour la journée. Non, mais je fais des farces. Ouais, c'était moins tendu avec la Chine, mais je te dis que ça reste délicat, là. Tu sais, on me parlait, moi, d'une croisière, là, tu sais, qui habituellement faisait, se promenait, une croisière américaine, une compagnie américaine, et qui rentre plus dans les eaux chinoises depuis quelques temps, là. Depuis une couple d'années, depuis quelques mois, un an, rentre plus dans les eaux chinoises. Même pour le tourisme, là, c'est du monde qui débarquait, qui allait, dans le fond, laisser, tu sais, des touristes, qui allait laisser leur argent, au quai de croisière, pis, même ça. Donc, c'est beaucoup plus tendu. Je sais pas jusqu'à quel point on le perçoit. Au Canada, ben, évidemment, on essaie de détendre un peu la relation. Est-ce que ça serait pour ça que le Canada aurait fait semblant? Tu sais, on a vu le ballon, mais on se bouche les yeux, on se bouche le nez, on fait semblant qu'on ne l'a pas vu. On veut pas lancer sur la place publique une tension avec la Chine, mais en même temps, on ne peut pas laisser la Chine nous espionner comme ça.
Ben c'est ça. Puis tu sais bien que les Américains, eux, ne le prendront pas comme ça non plus, là.
D'autant plus que les reportages des derniers jours, c'est que la Chine est peut-être plus proche de Poutine qu'on pensait, collabore avec Poutine. Ça sent pas super bon. Je veux dire, quand tu mets tout ça bout à bout, ça sent pas super bon, là. Ouais. C'est pas de si bon augure.
Autre sujet, parlons des amendements à C-21, qui frustraient les chasseurs, finalement retirés, volte-face du gouvernement Trudeau. Est-ce que le gouvernement, pour toi, sort affaibli de cette volte-face-là? Comment tu juges la décision?
Ben, c'était la seule affaire, parce que ça s'ajoute. Pour moi, c'est un gros exemple d'incompétence, parce que autant moi j'ai défendu les chasseurs dans ce dossier-là, autant je pense qu'il y a de véritables armes d'assaut qui devraient être retirées de la circulation, et là qu'ils ne seront plus, parce que tu comprends, l'incompétence, ça va des deux bords. Tu poses un geste, là tu fais un amendement de 300 pages, tu sais même pas toi-même ce qu'il y a dedans, t'inclus toutes sortes d'armes, là-dedans il y a des armes de chasse, tu fais paniquer les chasseurs. Mais finalement, dans ton incompétence, tu retires tout. Parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Tu dis, là, on s'est mis les pieds dans les plats. Tu retires tout. Puis là, tu dis, OK, je me mets plus les mains là-dedans, je touche plus à ça. Fait que, tu comprends? Tout ça est le contraire de faire de la bonne législation, là. Tu sais, en termes de faire de bonnes lois, de la bonne législation, c'est tout le contraire. Tu t'en vas trop d'un bord, tu te plantes, t'inclus des armes que tu voulais pas, t'écœures les chasseurs, tu crées une méga levée de boucliers. Puis là, en réaction à ça, tu recules complètement. Ouais, la loi va être adoptée quand même, là, tous les autres volets de la loi. Mais sur ce volet, c'est pas clair pour moi de quelle façon on va vraiment encadrer qu'est-ce qu'une arme d'assaut, puis comment on va les définir. Donc on a fait une mauvaise tentative de le faire, là on abandonne complètement. Alors ça nous laisse quand même avec un certain vide. Mais tu sais, il y avait eu une opposition. Je sais qu'il y avait eu des commentaires sur le geste de Carey Price. Là, puis il y avait une maladresse. C'était associé avec une association. À mon avis, il n'aurait jamais dû.
Ouais.
Mais son intervention était quand même représentative de quelque chose, représentative de ce qu'on entendait au Québec, des chasseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de l'Abitibi. Tu sais, on entendait ce message-là. Il y en a eu, ça a été pareil dans toutes les communautés de chasseurs à travers le Canada. Et finalement, ce qui a peut-être eu raison du gouvernement, c'est l'Assemblée des Premières Nations. Parce que les Premières Nations, il y avait quelques modèles de fusils inclus dans la fameuse liste, prouvant qu'ils savaient pas, le gouvernement eux-mêmes savait pas ce qu'il y avait dans leurs 300 pages. Il y avait des armes là, très utilisées, qui coûtent pas cher, qui ont été largement distribuées, achetées dans les communautés autochtones et qui sont devenues les armes de chasse du quotidien là, pour se nourrir des Premières Nations. Là, tu comprends que... On ne saura jamais, mais c'est peut-être l'Assemblée des Premières Nations qui aura eu l'ultime dernier mot pour faire part au gouvernement Trudeau et les faire reculer, là.
Parlons par ailleurs de cette rencontre des ministres des Finances à Toronto. D'ailleurs, il y a un point de presse là, qui devrait commencer sous peu. Bon, on jette quoi les bases d'une négociation pour cette entente sur les transferts en santé? Tu t'attends à quoi? C'est le prélude finalement à la rencontre des premiers ministres de mardi prochain, c'est un peu ça.
Ben, les négociations sur la santé, là, c'était toujours un petit peu en trois temps, parce qu'il y a comme trois volets à ça. T'as la santé elle-même, les volets de santé, puis là, quand le fédéral veut mettre des conditions, puis les hôpitaux, donc les affaires qui sont vraiment qui touchent concrètement les hôpitaux ou les CHSLD, là. Après ça, t'as les piastres, les montants d'argent. Puis après ça, t'as la politique. Fait que si je te ramenais ce que je viens de te dire, les trois étapes, t'as eu une rencontre des ministres de la Santé pour les éléments de santé, puis ça a accroché, puis en tout cas, ils sont peut-être entendus sur des bouts, puis ça a accroché sur d'autres. Puis là, t'as rencontre des ministres des Finances. Alors, probablement que là, ça va parler de piastres. Les ministres des Finances vont dire à Ottawa, mais regarde, nous autres, le genre de transfert dans nos budgets, la santé, c'est tel... Tu sais, la santé, ça accapare 43,3% de nos budgets, puis on aurait besoin de cibles. Donc là, on va parler de piastres. Puis après ça, les premiers ministres vont se réunir pour parler de... politique, tu sais, la dernière étape, puis là, M. Trudeau, ses conditions, puis sauver la face pour ceux qui perdent un peu dans la négociation. On va essayer d'habiller ça au niveau politique, puis chacun va essayer d'y faire gain politique, parce que chaque premier ministre, tu sais, veut se faire réélire localement, puis veut bien paraître là-dedans. Mm-hmm. Fait que la santé, les piastres, la politique, aujourd'hui, c'est les ministres des Finances, c'est l'argent.
C'est l'étape du milieu, il en reste une.
Elle est importante quand même, évidemment. Parce que, en bout de ligne, c'est ça le montant d'argent. C'est beaucoup ce que demandent les provinces, là. Passer de 22 % du financement de la santé par le fédéral à 35, quand tu regardes c'est quoi les budgets de la santé dans les provinces, là, le fédéral part d'une entente sur 10 ans, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards, là.
Mais encore là, il y a eu réchauffement, hein, on disait, à proscrire, mais réchauffement entre le provincial, les provinciaux et le fédéral que certains auraient jamais cru possible il n'y a pas si longtemps quand même. C'est à noter, on va suivre cette rencontre-là, suivre le point de presse dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Mario.
Bonne fin de semaine, Marianne.
D'avoir été là. Bon week-end. Bye.